أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد.
شيخ فرير شيخ سير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Louange à Allah, le Tout-Puissant. Louange à Allah, le Clément et le continuel pardonneur. Allah, le généreux et le continuel donateur. Loué soit-il, le créateur de toutes choses, le seul génie, la perfection au-delà de la perfection, la lumière au-delà de toute lumière. Louange à Allah, celui qui nous a attribué le titre de la meilleure des créatures. Rendez-vous compte du statut que l'homme, que nous avons parmi toutes les créatures qui existent et qui ont existé. Ashraful makhlouqat, la meilleure des créatures. Mais dites-moi, l'homme est-il vraiment digne de cet éloge? Est-ce que nous méritons vraiment ce titre? On le sait tous, et on nous le répète assez souvent, ce qui nous différencie et nous rend supérieurs à nos cousins, les animaux, et autres cousins éloignés, eh bien c'est l'intelligence, qu'on peut traduire en tant que homme. Eh bien, cher ami Homo sapiens, sache que beaucoup d'animaux partagent avec toi cette intelligence. Certes, sous différentes formes. On l'appelle quelquefois l'instinct animal, ou l'instinct de survie, ou instinct tout court. Mais c'est tout de même une certaine forme d'intelligence. Là où nous, êtres humains, nous sommes censés nous différencier, c'est que cette intelligence nous donne une capacité de raisonnement, de réflexion. C'est donc uniquement lorsqu'on utilise cette intelligence pour raisonner, pour réfléchir, c'est uniquement à cette occasion-là qu'on se différencie des animaux. À cette intelligence, on peut également y ajouter la conscience. Le terme conscience a plusieurs définitions. On peut la définir comme la capacité à appréhender sa propre existence. Ou encore, comme la faculté de distinguer le bien et le mal. Ce qui implique donc de faire des choix moraux. Les animaux ont également cette facette de la conscience. Une troisième définition qu'on peut donner à la conscience, et c'est ce qui va nous intéresser ici, c'est que la conscience est la capacité à mener une réflexion sur soi-même, à se remettre en question. C'est précisément cette capacité-là de remise en question qui est propre à l'être humain. Reprenons. L'homme a reçu le titre de la meilleure des créatures parce qu'il lui a été donné une intelligence qui lui permet de raisonner, ainsi qu'une conscience qui lui permet de se remettre en question. Mais est-ce que cet ensemble intelligence plus conscience constitue-t-il le seul facteur, ou plutôt est-ce le principal facteur justifiant ce statut d'Ashraful Makhlouqat? En y réfléchissant, l'homme, nous sommes une créature des plus paradoxales. Nous avons ces dons qui nous ont été donnés, l'intelligence et la conscience donc, qui nous permettent de créer, de planifier, d'imaginer ou encore de prévoir. Prenez les prouesses techniques qu'impliquent des objets tels que le smartphone, la tablette, les ordinateurs, etc. Pourtant, l'homme, avec cette même intelligence, cette conscience, eh bien nous arrivons tout de même à nous déclarer des guerres, à faire du mal à notre prochain, à détruire notre environnement, à nous comporter comme des animaux, voire pire. On retrouve d'ailleurs ce paradoxe de l'être humain dans l'histoire islamique. Le peuple de Quraysh, par exemple, avant l'arrivée du prophète, on ne pouvait trouver plus immoral comme peuple. D'ailleurs, le Coran, sourate 15, ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le prophète et décrit ces gens comme des gens qui, je cite, « se confondent dans leur délire ». Et pourtant, quelques années plus tard, ce même peuple est élevé à un rang d'estime par Allah. Sourate 3, Al-Imran, ayat 110. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Et encore quelques années après, Imam Hussein alayhi salam dit au soir du 10 Muharram à ses compagnons qui appartenaient pour la plupart à ce même peuple de Quraysh, il leur dit « En vérité, je ne connais pas de compagnons meilleurs et plus fidèles que mes compagnons. » Quel paradoxe! Le peuple de Quraysh est passé donc d'un état de délire, qu'on qualifiera d'état A, à un statut de meilleure communauté, état B. Eh bien, ce passage d'un état A inférieur à un état B supérieur, c'est ce qu'on appelle l'évolution, ou encore la réformation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on l'entend assez souvent, le prophète a réformé sa communauté, son peuple. Et c'est précisément cette capacité que l'être humain a d'utiliser son intelligence ainsi que sa conscience afin d'évoluer, de se réformer, eh bien c'est ce qui le rend supérieur aux autres créatures. Qui plus est, si cette réformation est faite pour se rapprocher du Tout-Puissant, quoi de plus bénéfique et de valorisant? Il ne suffit donc pas de posséder l'intelligence et la conscience. Nous avons le devoir d'utiliser cet intellect et cette conscience, ces capacités que Dieu nous a offertes, pour évoluer, pour passer d'un état zéro à notre naissance, où on est semblable à un tableau blanc sans aucune tâche. Nous devons donc évoluer tout au long de notre vie dans le seul but de nous rapprocher de notre Créateur. Nous avons vu tout à l'heure que le prophète a réformé son peuple, de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même en a fait l'éloge dans le Coran. Comment a-t-il donc procédé? Parce qu'à première vue, cela a dû être tout de même un vrai problème, un vrai challenge pour le prophète que de faire évoluer un peuple aussi arriéré et abject. Comment s'y est-il donc pris? L'homme, la réponse est simple. Tout a été dans l'approche que le prophète a eue envers ce problème. Et Cheikh en a d'ailleurs parlé dans un de ses majalis durant ce Hashour. En fait, il n'a jamais considéré cette situation ou ces gens comme un problème, mais plutôt comme des opportunités. Il a toujours vu du potentiel en chacun, du potentiel pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe combien ce potentiel était enfui. Il a toujours vu le bon, aussi infime soit-il, en chaque personne. Qu'est-ce que moi j'ai tendance à faire lorsque je me retrouve face à un challenge, face à un problème? Et je vais parler de moi-même, je vais baisser les bras. Ou lorsqu'il s'agit de personnes, je vais les catégoriser, je vais les marginaliser, je vais les juger, je vais les effacer de mon entourage. Le prophète, lui, avait une approche complètement différente, diamétralement opposée. Vous connaissez tous Abadar al-Ghaffar, un des grands compagnons du prophète, celui sur qui le prophète a dit « Il n'y a pas plus véridique sous les cieux qu'Abadar al-Ghaffar ». Ou encore, « Si vous souhaitez voir l'adoration de Nabi Isa alayhi salam pour Dieu, regardez l'adoration d'Abadar al-Ghaffar ». Eh bien, chère assemblée, sachez qu'auparavant, Abadar al-Ghaffar était un bandit. Oui, un bandit. Un voleur qui pillait des caravanes tout en menaçant les gens. Le prophète, au lieu de se focaliser sur cet aspect et de voir en lui un problème, il a plutôt vu une opportunité en cet homme. Une opportunité qu'il devienne un grand serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel serviteur! De la même façon, si on prend un peu de recul, on peut imaginer qu'Imam al-Mahdi, alayhi salam, lorsqu'il réapparaîtra, n'aura que faire du passé, de l'histoire de chacun. Il regardera chaque individu de l'humanité comme un potentiel adorateur d'Allah. Mais alors, si le prophète regardait chaque être comme un potentiel serviteur d'Allah. Si le 12e imam regardera chaque personne comme un potentiel serviteur d'Allah, alors qui suis-je? Qui suis-je pour voir mon prochain autrement qu'un potentiel serviteur d'Allah? Qui suis-je pour juger, pour poser une étiquette, pour catégoriser mon prochain? Qui suis-je pour marginaliser mon prochain sous prétexte qu'il n'a pas les mêmes croyances que moi, qu'il n'a pas la même couleur de peau que moi, qu'il n'a pas les mêmes origines que moi, qu'il n'a pas la même approche de la religion que moi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait un don qui est l'intelligence, ainsi qu'un autre don qui est la conscience, et nous a placés sur un piédestal en faisant de nous la meilleure des créatures. Est-ce que j'en fais honneur? Est-ce que je fais honneur à ce statut? Un archevêque sud-africain, et je termine ici, prix Nobel de la paix en 84, déclarait dans une de ses interviews la citation suivante. Cette citation est étonnante, voire choquante, lorsqu'on se place à notre place en tant que Kurde. Mais elle est lourde de sens et pleine d'enseignements. Desmond Tutu, donc, dit, je cite, « Le rêve de Dieu consiste en ce que vous, moi, nous tous, réalisons que nous sommes une famille, que nous avons été créés pour la coexistence, l'altruisme, l'empathie. Dans la famille de Dieu, il n'y a aucun égaré, il n'y a aucun ennemi, noir et blanc, riches et pauvres, juifs et arabes, chrétiens et musulmans, hindous et bouddhistes, pakistanais et indiens. Tous appartiennent à cette famille. Quand nous commençons à vivre comme des frères et sœurs et que nous témoignons un respect mutuel, nous occuperons uniquement à ce moment-là pleinement notre position d'être humain.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jazakallah.
La question qu'on peut alors se poser individuellement est, est-ce que j'occupe aujourd'hui ma position d'être humain? Est-ce que j'agis comme la meilleure des créatures de Dieu? Est-ce que je dois évoluer, me réformer? Chacun aura sa propre réponse. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim.